Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître et surtout vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers du parfum à la rencontre d'une femme Blooming You, la créatrice de parfums Aliénor Masnier. J'ai toujours pensé que les parfums faisaient du bien à l'esprit. Il est fréquent d'associer une odeur à un sentiment, à un moment ou encore à une personne. Certains parfums nous renvoient immédiatement à un souvenir et activent ainsi notre mémoire. Saviez-vous qu'un souvenir associé à un parfum dure 3 fois plus longtemps qu'un souvenir visuel? Dans ce podcast, le nez Aliénor Masnier nous parle avec pudeur et authenticité de son parcours d'autodidacte hors normes, de son engagement auprès des personnes en situation de handicap, ainsi que des vertus du parfum tant olfactives que thérapeutiques. Alors bonjour Aliénor.
Bonjour.
Alors Aliénor Masnier, vous êtes créatrice de parfums chez Simrise.
Oui.
Vous avez créé des parfums pour de nombreuses grosses enseignes, dont Memo et John Galliano.
Oui.
Nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler des ateliers olfactifs que vous animez pour l'ADEP, qui est une association d'entraide des personnes en situation de handicap neurologique à Rueil-Malmaison en région parisienne. Mais avant tout, j'aimerais effectivement qu'on aille comprendre votre parcours et j'aimerais savoir comment devient-on né.
Le parcours classique pour devenir né, c'est de faire cette école à l'ISIPCA à Versailles, où on apprend l'olfactif, à composer des parfums. Moi, j'ai pas du tout fait ça. J'ai appris sur le tas. J'ai appris avec Monique Schlinger chez Cinquième Sens, où elle m'a appris les gammes olfactives, comme on peut faire des gammes au piano. Et puis ensuite, j'ai fait un stage chez Flora Sainte. Et en parallèle, j'étais à l'Université américaine de Paris où j'ai suivi des cours d'histoire de l'art, de psychologie, d'économie, de philo. Donc c'était beaucoup plus ouvert au niveau créatif. Et ensuite, je suis partie chez IFF à New York, où des très grands nés m'ont appris leur métier, et j'ai vraiment appris sur le tas, avec une balance, et c'était des moments très forts.
Me disiez en off que vous n'étiez pas forcément prédestinée à ces métiers qui sont quand même assez scientifiques.
Oui.
Vous disiez que vous aviez à l'école, c'était pas tellement votre partie, que vous étiez aussi dyslexique,
voilà.
C'est ça.
Et, c'est vrai que pour faire des études de chimie en France, et même en fait à l'heure d'aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus souple, mais à l'époque quand on était dyslexique, quand on était 10, ce que vous voulez, c'est vrai qu'on était pointé du doigt comme si on était un handicapé, et que c'est ça en fait, cette violence quand même quand on est jeune, qui m'a permis de voir les choses différemment en fait, et de d'ailleurs c'est probablement la raison pour laquelle aussi je fais les ateliers à Rueil-Malmaison, c'est qu'en fait quand on est un peu différent des autres, en fait on est tout à fait comme les autres, mais il faut savoir jongler, et c'est vrai que ça m'a appris aussi beaucoup peut-être d'être plus empathique. De l'empathie, de l'entraide, d'une sensibilité différente. Peut-être aussi ça m'a appris à écouter plus mon intuition. En fait, je pense que tout événement un peu négatif qui peut arriver, il faut le tourner en positif. Je suis convaincue par ça, en fait.
Et comment ça s'est matérialisé dans votre parcours? À quel moment vous switchez À quel moment vous passez entre guillemets du négatif au positif? Quel est l'élément déclencheur chez vous? Parce que quand on est comme ça, tout le temps stigmatisé, montré du doigt quand on est une sorte de souffre-douleur, entre guillemets. Enfin,
c'est alors, comme c'est ça. Plus du tout le cas aujourd'hui. Hein.
Oui, bien sûr, mais il y a une époque.
Aujourd'hui, c'est vrai que j'étais jeune, donc il faut. Ça m'a pris quand même un certain nombre d'années. Hein. Je vous en parle là maintenant, mais vous voyez, j'ai quand même été aidée avec des psys. Enfin voilà. Et en fait, dans la vie, quand il y a quelque chose de négatif qui arrive, il faut le essayer de le tourner en positif et de se dire qu'est-ce qu'on aimerait en fait. Et là, par exemple, d'être parfumeur, quand j'étais très jeune, j'adore sentir et de créer un parfum, c'était quelque chose pour moi d'impensable. Et donc mon rêve était de devenir parfumeur. Et on m'a fermé des portes. Ben c'est pas grave, vous rentrez par la fenêtre. Mmh. On ferme la fenêtre, vous rentrez par la cave, par la cheminée. Mmh. Mais quand on a un rêve, il faut y aller quoi. Et puis voilà, en fait.
Génial. Quelles circonstances vous ont amené à animer chaque mois des ateliers pour les personnes en situation de handicap?
Alors, c'est vrai que j'ai commencé donc quand j'étais dans mon ancienne entreprise j'ai rencontré Marie-France Archambault, qui est une femme qui a commencé les ateliers olfactifs donc avec le CEW en 2000-2001. Et elle a commencé à Garches, à l'hôpital de Garches, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, l'olfactif le nerf olfactif est très près du cerveau et que ça peut stimuler énormément de choses. Donc je l'ai rencontrée. J'ai aussi rencontré Patty Kanak qui travaillait ensemble. Et puis en 2009. 2008-2009, j'ai demandé si je pouvais participer à ces ateliers olfactifs. Et donc j'ai commencé à m'impliquer là-dedans. En plus, on a monté d'autres ateliers pour d'autres pathologies, comme l'anorexie. Et il y a des ateliers olfactifs donc pour aider les patients qui ont de l'anorexie à la maison de Solène et à l'hôpital Ambroise Paré. Elles ont aussi beaucoup animé, on anime toujours d'ailleurs des centres de cancérologie, de gériatrie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, traumatisme de la route, hein, les AVC, beaucoup à Garches. Et moi je m'occupe en fait de gens qui ont eu des AVC ou des traumatismes crânien, des accidents de la route, voilà. Et c'est un moment en fait de vrai partage où en fait on est dans l'humain, dans la joie grâce à une odeur, grâce à un parfum.
Alors comment ça se passe concrètement? Vous disiez tout à l'heure que effectivement, le nerf olfactif est très proche du cerveau. Je sais qu'aujourd'hui, c'est les ateliers olfactifs, enfin, on se sert de l'odorat pour pouvoir aider les patients atteints d'Alzheimer.
Alors, il y a ça aussi. Oui, l'Alzheimer aussi, tout à fait.
Sur vos ateliers, comment ça se matérialise en fait?
J'avoue qu'avec le Covid...
Ouais.
Cette année, on n'en a pas fait beaucoup, malheureusement.
Ouais.
Moi, je veux pas. Comme je vois quand même plus de gens que ces patients, même si c'est c'est pas un hôpital, enfin, un lieu où les gens viennent tous les jours et rentrent chez eux le soir, je voulais pas les mettre en danger. Mais en fait concrètement, donc là on est un groupe de 10 personnes, donc ça va entre 8 et 12 personnes même, et je reste avec eux pendant une heure et demie, et on va sentir des odeurs autour de 8 à 10, et je vais choisir un thème. Donc ça peut être, le thème de la maison, Donc on va, je vais leur faire sentir une première odeur qui peut être l'odeur de la lessive, d'accord. Et donc ils vont tous avoir une touche. Donc déjà en étant assis correctement et en tenant la touche et en mettant la touche au nez, il y en a qui ont des problèmes physiques pour faire ça déjà.
D'accord.
D'accord. Ensuite, il faut essayer de se concentrer sur l'odeur. Ça paraît simple, mais quand on a eu le cerveau un peu abîmé, c'est un exercice de la concentration. Et puis après, je leur pose des questions ouvertes, très, très larges. Ça vous fait voyager où? Est-ce que vous avez un ressenti? Donc, c'est des questions très larges. Et après, je vais aller vers des questions plus fermées, plus directives. Par exemple, est-ce que c'est une odeur salée? Est-ce que c'est une odeur sucrée? Est-ce que ça vous évoque une couleur? Donc, ça, c'est plus, plus des questions un peu plus fermées. Il y en a qui vont dire ça m'évoque mon enfance, ça m'évoque la propreté, ça m'évoque. Et après, je vais essayer, ensemble, on va essayer de trouver le nom de cette odeur. Mais en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que là, l'objectif, si on peut parler de ça parce que ça fait trop finance, mais. C'est de, comment dirais-je, qui passe un bon moment, qui parle, de faire travailler la mémoire différemment qu'une orthophoniste, autre qu'avec des mots, c'est vraiment avec l'émotion du nez, quoi. Qui est purement, qui est un des sens les plus abstraits.
Là, vous m'avez emmené dans la Madeleine de Proust.
C'est complètement ça. C'est complètement ça. Un jour, j'avais fait un atelier. De toute façon, j'ai tellement d'histoires. Un jour, j'avais fait un atelier où j'avais ramené des odeurs. C'était sur quoi ? Ouais, c'était un thème, je pense, sur un voyage en Asie ou voilà. Et il y a un monsieur, donc je fais découvrir une odeur boisée. Et il y a un monsieur, c'était la première fois ou deuxième fois que je le voyais. Il commence à dire tout de suite, mais madame, c'est du vétiver. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le nom vétiver, qui mettent un nom de vétiver sur du bois. Et là, tout le monde autour de la table dit, mais comment tu connais cette odeur? Parce que c'est vrai qu'il se... En fait, ils se connaissent, mais ils ne se connaissent pas vraiment. Ils ne parlent pas de leur accident, ils ne parlent pas de leur enfance, très peu. Et donc là, en fait, cette odeur a permis que tous les autres patients, en fait, découvrent cet homme. En fait, c'est un monsieur qui a habité Haïti et qui, son père et son grand-père, étaient des producteurs de vétiver, qu'on utilise clairement dans le vétiver de Guerlain, par exemple, d'accord, ou dans certains vétivers. Voilà, moi, c'est un bois que j'utilise beaucoup. Et donc, ça a permis, en fait, de commencer une discussion humaine. Et donc, on a parlé de ça, Donc, à chaque fois qu'en fait, quand il y a une odeur un peu forte, ça ouvre la discussion du groupe et ça met un peu plus d'humanité en fait. Voilà. Et ça, c'est honnêtement très chouette. C'est très chouette.
D'ailleurs, ce qui vous a amené effectivement à faire ces ateliers, c'est une expérience personnelle.
Oui, humaine.
Oui. Votre frère.
Voilà. Ouais, c'est un peu émouvant. Excusez-moi.
Je vous en prie.
Pourtant, c'est il y a longtemps quand même, mais bon.
Il y a combien de temps?
C'était en 2005. En fait, j'ai un frère par alliance, voilà, qui est décédé. Et ça va passer. En fait, quand je suis un peu fatiguée, il y a des sujets comme ça sensibles. Voilà, en fait, c'est un frère qui a à l'âge de... Il n'avait pas encore 33 ans. Il est mort d'une leucémie. Et j'allais, en fait, à Percy, lui apporter une odeur. Parce que, bon, quand on a une leucémie forte, on vous met dans des chambres stériles. Et donc, bah, vous êtes déconnecté, en fait, des odeurs, du goût... en plus, une chimio, ça vous abîme, tout ça. Je me suis dit, je vais lui faire un atelier olfactif, quoi. Et puis, c'était trop tard. Voilà. Donc, après, je me suis dit, tiens, je vais continuer. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec le Covid, j'en fais moins. Et que voilà, mais je suis sûre que d'ici quelques années, j'en ferai plus. Et c'est un moment qui est fort, très fort. Mais bon.
Il y a un avant et un après.
En fait, voilà. Tout à l'heure, je disais comment tourner quelque chose de négatif en positif. Clairement, en fait, quand vous perdez quelqu'un de très proche, en fait, il faut le tourner en positif. Ce qui n'est pas évident. Et là, j'ai tourné ça en positif. Voilà. Mais bon.
Comment aujourd'hui vous abordez la création ? De toute cette expérience personnelle, cette richesse que vous avez.
Alors, en fait, aujourd'hui, quand je crée, déjà, je crée pour les marques du monde entier. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que vous pouvez être dans votre bureau à Paris, à Clichy, chez vous, quoi, avec le confinement. Et vous imaginez, de créer un parfum pour le marché brésilien, on va dire. Et en fait, grâce à l'olfactif, vous transportez, quoi. Ça, c'est assez magique. C'est assez magique, en fait, que grâce à une odeur, même quand, par exemple, je crée pour la Chine ou pour l'Asie ou pour les États-Unis, en fait, je vais essayer de comprendre le goût de ces populations, d'accord ? Ou même français, ou même espagnol, italien, enfin bon. On essaye de se mettre dans la peau, en fait, de ces populations, de se dire, ok, qu'est-ce qu'ils aiment vraiment ?
Et comment vous faites pour vous mettre dans la peau de ces populations?
Par exemple, les États-Unis, je connais bien parce que j'ai habité 6 ans, donc je connais, mais quand je dois créer pour les États-Unis un parfum féminin, je sais très bien qu'en note de tête, il va falloir que je sois frais, un peu fruité, avec une trace de cannelle, parce que dans beaucoup de plats, ils mettent de la cannelle, frais parce qu'ils sont très... sport, voilà, fruité aussi. Ensuite, par exemple, pour le Brésil, quand un client me dit, ou nos collègues, mes collègues là-bas me disent, Aliénor, il faut faire une fleur, le côté fleur va être différent d'une fleur qu'on va faire ici pour la France. Donc c'est ça qui est, c'est assez génial, en fait. C'est en fait, quand on est parfumeur, on doit avoir quand même un peu de notion de chimie. Bon, même si moi c'est pas tip top, mais il faut avoir, en fait, c'est un vrai, on est des artistes. parce qu'il faut avoir quand même un mélange, voilà, de scientifiques, un mélange de sociologie quand même, parce que là, purement ce que je viens d'expliquer, c'est de la sociologie.
Bien sûr.
Il y a à côté aussi psychologique, parce qu'on ne vend pas directement, je dirais, aux gens, mais on doit vendre à des marques. Donc, on doit essayer de comprendre aussi comment eux fonctionnent. Il y a tout un côté aussi géographique, parce qu'on travaille des matières premières naturelles qui viennent de plein de pays du monde, où là on a des agriculteurs qui travaillent pour nous, et ça c'est juste génial.
Ça... Et donc vous allez sourcer aussi
Alors on peut, enfin Symrise va sourcer, d'accord. Moi c'est pas mon métier, moi mon métier c'est de créer, d'assembler tout ça. Mais j'ai des parfums, ben là je peux vous parler d'un parfum parce que voilà, il me vient à la tête. Couleur vanille de l'artisan parfumeur. Quand Thomas James, donc, qui est directeur marketing au poste chez Puig de cette marque, m'a demandé, Eleanor, je voudrais que tu me crées une vanille. Et ben j'ai pris les très belles qualités de vanille que Symrise a. Cette qualité de vanille vient de Madagascar. Et on a tout un programme... sustainable avec ses agriculteurs. Donc on aide une communauté énorme à Madagascar grâce à la vanille de Madagascar, au gingembre, à plusieurs matières premières. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Parce qu'en fait, tout parfum, tout flacon en fait, de couleur vanille vendu, eh ben, ça va indirectement vers ses agriculteurs aussi. Et je trouve qu'au XXIe siècle, c'est très important.
De veiller à la qualité du sourcing, la qualité du traitement aussi des fournisseurs.
Et exactement, et la qualité de l'humain aussi.
Bien sûr.
D'aider des humains en indirect en fait. Pour moi, c'est très important. On a la même chose avec un jasmin, enfin, on a dans la différente matière première où il y a ça.
Quand on est une femme dans un milieu masculin, parce que j'ai cru comprendre que le monde du parfum restait encore quand même à dominante masculine, alors j'imagine que les choses changent. Comment ça se passe? Comment se fait une place? Bon, j'ai compris qu'aussi il fallait beaucoup d'agilité mentale. Déjà, pour être parfumeur, enfin, on comprend quand on vous écoute, ça demande beaucoup d'être très curieux, de s'intéresser à pas mal de choses, et donc de travailler.
Oui. Travailler, être voilà, très curieux, être assez indépendant, et puis voilà, suivre son intuition, hein, son troisième œil, enfin voilà.
Ça veut dire quoi, son intuition? Suivre son intuition, concrètement, vous, comment ça se passe? Comment elle vous parle? Comment vous la ressentez? Comment vous la vivez?
C'est marrant que vous me posez cette question, parce qu'il y a 15 jours, j'ai fait un stage sur l'intuition. L'intuition, en fait, c'est quelque chose qui est complètement abstrait. D'accord. Et pour suivre son intuition, il faut être dans un état, comment je pourrais dire, physique, très zen. Comme quand vous faites du yoga ou même quand vous faites de la méditation profonde, où là, en fait, les signes de la vie vont vous donner des images, en fait, des choses. C'est limite très spirituel en fait. Mais quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion.
Hein. Bien sûr.
D'accord. Je parle de rentrer dans son être intérieur.
De sa relation à l'invisible.
Exactement. Exactement. D'avoir une connexion avec son être intérieur, qui est très important. Et c'est vrai qu'en fait, quand je crée, alors il y a des parfums où je vais mettre, où un parfum aura une certaine vibration, d'autres peut-être moins. Parce que ça dépend, voyez, de la distribution, du marché, de la marque. En fait, c'est une rencontre entre un parfum et une marque. Et il y a des moments très forts, d'autres peut-être un peu moins forts. Voilà. Vous m'aviez posé une question avant.
Oui, sur la place des femmes.
Voilà, alors la place des femmes. Alors, c'est vrai que moi j'ai eu énormément de chance parce que Donc j'ai appris avec Monique Schlinger, j'ai appris avec Sophia Grossman.
Donc avec des femmes.
Donc des femmes. Ouais. Et c'est vrai que Sophia, quand elle est arrivée dans l'industrie de la parfumerie, c'était limite la seule femme. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il y avait Joséphine aussi, qui a fait Fiji. Mais bon, elle a dû vraiment se défendre beaucoup. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la parfumerie, il y a beaucoup de femmes. Donc c'est moins une bataille. Oui, c'est moins une bataille. Je trouve qu'aujourd'hui, voilà, il y a un vrai mélange entre hommes, femmes. Il y a tous les genres aussi. Et c'est sympa. C'est très sympa.
Pour revenir à la question de l'intuition, donc vous disiez qu'il fallait se mettre dans une situation de calme, de zen. Comment, qu'est-ce que vous utilisez, vous ? Quels sont vos secrets pour entrer dans cet état d'être ?
En fait, il faut... C'est vrai que j'ai découvert le yoga, donc je pratique le yoga. En fait, il faut s'éloigner de tout ce qui est mental, d'accord ? Donc tout ce qui est tout ce qui est mental, donc ordinateur, téléphone, il faut déconnecter de tout ça. Et respirer, aussi travailler, réguler les sept chakras. Après c'est compliqué de le dire en deux minutes, hein, mais c'est laisser en fait les ondes positives arriver. Et puis être dans le calme, dans le côté positif. Fermer les yeux, être dans une position particulière, la position du lotus, et se laisser transporter, quoi.
Je ne peux résister à cette question. Quelle est votre odeur préférée ?
Quoi ?
Votre odeur préférée ?
La date ?
Votre
odeur préférée. Mon odeur préférée. Alors, j'utilise beaucoup dans beaucoup de mes parfums, soit de la myrrhe, soit du labdanum.
Ouais.
Parce que, pour différentes raisons, c'était en tout cas la myrrhe et le labdanum, les Égyptiens s'en servaient pour embaumer les corps, donc pour amener l'âme vers l'au-delà. C'est une odeur que je trouve très profonde, qui a un côté très résineux, donc on va retrouver dans le fond d'un parfum, en note de fond, qui se marie très bien avec beaucoup de notes, qui donne un côté sexy, sensuel. Par exemple, là, dans le Copper, de Comme des garçons, où j'ai reçu un prix hier au Fifi, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de myrrhe. Et ça donne une donc qui est mélangé avec des baumes, hein, avec du benjoin, de la vanille, et ça donne énormément de chaleur, ça patine en fait, ça c'est un peu en plus bon ce parfum il est quand même très créatif et un peu dingo, hein. Mais souvent quand je crée un parfum, je m'imagine une peinture. Donc ça peut être une peinture, vous voyez, il y a des parfums qui ont une épaisseur, c'est très abstrait, hein, mais qui ont une épaisseur un peu plus comme de la peinture à l'huile. D'autres, des choses beaucoup plus frais, qui seraient plus de la peinture aquarelle, mais c'est au niveau de la matière qu'on sent en fait. Bon, ça, là je parle très abstrait. C'est très abstrait. En fait, il faudrait que je vous fasse sentir...
Le parfum dont vous êtes le plus fier de votre création ?
En fait, c'est une question que je pourrais vous répondre à 70 ans. Je ne sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas aujourd'hui parce qu'en fait, pour moi, toute création est... Je ne sais pas.
Le parfum que vous portez ?
Alors, en ce moment, bon, alors la semaine, je porte des parfums que je développe, d'accord, pour voir comment ils réagissent. Hein. Et le week-end, je porte des parfums quand même très puissants, parce que j'aime beaucoup les choses avec beaucoup de caractère. Donc, j'ai porté beaucoup Granada de Memo. Mm-hmm. J'ai porté aussi beaucoup un parfum que j'ai fait avec Pierre Guéros et Véronica Cato. Le Oud Essential féminin de chez Natura.
D'accord.
C'est un parfum qui laisse un siège de dingue, les deux d'ailleurs. J'ai beaucoup porté, bon, quand j'étais jeune, hein, à l'âge de 12-13 ans, je portais Shalimar. Comme beaucoup de petites jeunes filles, on va voler les parfums de sa maman. Quoi.
Shalimar, c'est quand même à 12-13 ans, c'est quand même.
C'est costaud. J'ai porté Loulou aussi beaucoup. J'ai porté. Je me souviens à New York, je portais un parfum très rosé, cuiré, que j'avais fait avec Sophia, qui n'est jamais sorti. Hein. Ça bouge. Ça bouge, mais je porte beaucoup de parfums oriental. J'aime beaucoup les choses capiteuses, en fait. Ouais, j'aime beaucoup.
Et comment on choisit son parfum ? Est-ce que on nous dit souvent qu'en fonction des peaux, les parfums réagissent différemment. Donc, est-ce qu'on peut savoir tout de suite en le plaçant sur sa peau ? Il faut laisser attendre un peu pour voir effectivement la note. Comment on fait pour choisir son parfum ?
Je pense qu'idéalement aujourd'hui, en me mettant à la place des consommateurs, du grand public, je demanderais des petits, vous savez, des petits tubes là, d'essai, et j'essaierai le parfum pendant quelques heures pour voir comment le parfum réagit sur votre peau. C'est vrai que quand on va chez Sephora, Mariono, il y en a beaucoup de parfums. Après, le conseil que je peux donner, c'est que si une personne a déjà porté un parfum, donc de le dire à la vendeuse, et souvent ces personnes vont vous orienter en fonction des familles olfactives. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, si vous aimez bien, je prends un parfum au pif, hein, Coco Mademoiselle de Chanel, qui est un chypre, avec beaucoup de patchouli, que vous portez déjà, vous voulez changer. La vendeuse va vous orienter vers un chypre de nouveau. C'est comme ça que. Ou alors, bon, après le coût il est différent, mais si vous allez par exemple, si vous aimez vraiment le parfum et que vous avez du temps, allez, vous voyez, au printemps, il y a une section, au premier étage, il y a tout un endroit où il y a des parfums, je dirais plus de haute parfumerie, on va dire, où là, vous pourrez faire une rencontre avec un parfum. Parce que c'est un peu plus grand public, quoi. Ouais. C'est un peu plus de la grande création. Alors, le coût est différent, c'est vrai. Mais en même temps, les matières premières qu'on met dedans sont quand même... très très belle. Ça dépend, en fait, il y a aussi dans les supermarchés, ça dépend de votre budget, ça dépend de vos goûts, ça dépend de plein de choses, en fait.
Bien, merci Aliénor. Est-ce que vous aurez un dernier mot à partager avec ceux qui nous écoutent?
En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin me voir, je suis très honorée. Quel dernier mot je pourrais dire? Un parfum, c'est quelque chose de vivant, en fait. Voilà.
Merci beaucoup, Aliénor, de nous avoir reçus. On est très honorés également. De toute façon, on voulait vous rencontrer absolument quand on a découvert votre bio. Donc, on est enchantés. Merci pour votre partage, votre authenticité. Et voilà, merci beaucoup.
De rien.
Au revoir,
à très vite.
À très vite.
très compliqué.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, faites-le savoir. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !